quand il a levé les yeux comme ça. Ah ouais. Il y avait une grande, grande dame qui s'est baissée, qui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon bonhomme? Tu sais pas que t'es dans la maison de l'ogre, mon mari? Qu'est-ce que tu veux? Et Jack, il a dit, j'ai faim.
Bonjour, chers amis auditeurs de l'horreur.
Mais non, c'est pas vous qui êtes horrible, c'est les histoires que vous allez entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en deux parties, comme d'habitude. Une première partie avec Bérangère Charbonnier et son spectacle Jack O'Lantern. Et une deuxième partie avec moi, en public ado, parce que oui, les ados aiment les histoires qui font peur. Et moi, ça s'appelle La mort aux frousses. Voilà. J'aurais pu attendre le prochain Halloween, mais je ne résiste pas à la tentation de vous présenter Bérangère Charbonnier, musicienne conteuse et aussi organisatrice, avec Ariel Thiébaud, des soirées inoubliables à la BAM, Bibliothèque Associative de Malakoff, Bibliothèque Anarchiste de Malakoff. Bon, ça c'est comme vous voulez. Bérangère et Ariel accueillent de jeunes conteurs, conteuses. Et bam, et boum, tremplin, trampoline. Espérons que les artistes soient propulsés sur des scènes un peu plus connues, mais tout aussi chaleureuses, je le souhaite. Donc Bérangère et sa valise magique à roulettes, dans laquelle elle met une guitare, une harpe, une cithare, une citrouille, un peu de trouille, un diable, beaucoup de malice et son jack. Non, pas le jack de son ampli, le jack aux lanternes. Celui qui va et vient entre le monde des morts et des vivants. Oui, les enfants étaient ravis et crac. Tout ceci dans le cadre du festival du légendaire, chapeauté par Pascal Folio. Bérangère, une petite graine de chaleur dans la voix, et voilà l'heure, notre veine. Enfin, redevenir enfant, bien assis dans une bergère. Non, la Corinne arrête avec Thierry Magogo. La salle des fêtes de Vernouillet a juste des fauteuils normaux. Donc, je disais, bien assis, à frissonner, à rire, à jubiler des facéties de ce jack-o'-lantern.
Eh bien, bonjour Bérangère.
Bonjour Corinne.
Dis-moi, est-ce que tu étais musicienne avant d'être conteuse ou conteuse avant? En fait, je voulais tout savoir.
Je suis d'abord musicienne avant d'être conteuse. Musicienne pour chanter, les chansons trad françaises, et puis des contes, j'en ai entendu quand j'étais petite, et puis je rencontre Ariel, voilà, qui cherche une musicienne. Je viens d'acquérir une basse, et elle me fait moi j'ai envie d'être accompagnée par une bassiste. Donc la rencontre se fait à ce moment-là, quoi.
C'était ton premier instrument, la basse?
Ah non, mais c'est la guitare.
La guitare.
Non, la cithare même. Peut-être la flûte à bec, enfin bon. C'est... Mais à force de l'accompagner pendant peut-être quoi 3-4 ans, s'est instauré une telle relation que moi j'adore entendre les histoires. La première des raisons pour laquelle je me suis mise à raconter, c'est que j'adore entendre les histoires. Et puis j'ai accompagné d'autres conteuses, Catherine Lavelle, Hélène Lou, Martine Mangeon, et puis le confinement arrive et je pars. Et là au Corrèze, j'avais la guitare forcément. Mais il se passe quelque chose. Mais comment je vais faire maintenant que je suis droguée au compte? J'ai de grands échanges avec Pascal Folio qui m'incite. J'avais eu de grands échanges avec Milena Salvini à cette même époque qui me pousse. Et donc là, pendant le confinement, seule en Corrèze, je vais commencer à me raconter des histoires. Quoi.
Ça date à peu près du confinement, quoi.
Où moi, je le mets en bouche et j'accepte de les donner à voix haute. Ouais. Oui, mais,
d'accord.
Voilà.
Même pas mal. Il courait, il sautait. Il retombait, il se relevait. Même pas mal. Et de cette manière-là, il a continué de courir sur les nuages et d'arriver tout près du château de manière discrète. Il a ouvert la porte du château. Et dans l'entrée, là, il y avait une grande paire de chaussures géantes.
Et alors ce spectacle, comment tu l'as fait? D'accord, on a trois histoires. Jack et le haricot magique.
Jack Semper, qui s'appelle... Voilà.
D'accord. Tu l'as un peu réécrit, modulé...
Et il passe son temps à bouger, là.
Oui, bah, c'est ça. Oui, bah,
voilà.
C'est...
Jack et le haricot magique n'en faisaient pas forcément partie au début. Et il a très envie de venir, mais il faut lui trouver sa place. Et avant, en fait, je racontais avec le bûcheron et la mort.
Sur le chemin, il chantait sa petite chanson. Je suis Jack sans peur, je suis Jack sans peur. Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de rien. Je suis Jack sans peur, je suis Jack sans peur. Je n'ai peur de rien du tout. Mais oui, il est arrivé comme ça devant mes lunettes. Et il a vu grandir ses enfants. Il avait gagné 15 ans. Il était tout content et de temps en temps, comme ça, il pensait au diable. Il disait, ah, s'il revient, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Et dans les histoires, le temps passe vite.
Ouais, c'est très bien monté en fait, parce que ça s'enchaîne, on voit, bon, alors, évidemment quand on est adulte et qu'on est un peu dans le conte, on comprend bien qu'il y a trois histoires, mais je veux dire, je crois que pour les enfants, tout ça c'est très fluide, les transitions sont quasi invisibles, sauf à changer d'instrument
ouais.
Et tout ça. Et donc ce spectacle, il existe depuis...
Il existe depuis bien 3-4 ans en fait, c'était une commande bah, juste avant le confinement,
malgré tout. Ah, c'était une commande
quoi. Ouais.
Qui t'avait commandé ça?
C'est un directeur de MJC à
Gif-sur-Yvette
qui me dit « Ah ouais, tu veux faire du conte? Tu veux y aller seule? Eh ben vas-y. Tu me fais un conte d'Halloween. » Je lui dis « Oh non, Halloween, non. Moi vivante, je te ferai pas un conte d'Halloween. »
Comment tu as dit? Tu as dit comment? Jack sans peur? Non mais Jack, le Jack qui a pactisé avec le diable? Mais ta place n'est pas ici, à voir dans le monde d'en bas. Eh bien, Jack est allé voir dans le monde d'en bas. Et quand il est arrivé, il a toqué et qu'il a dit qu'il était Jack sans peur. Il y a une petite dame aux yeux rouges qui est sortie, toute échevelée, qui a dit « Comment ? T'as dit quoi ? Qui ? Comment ça ? Jack sans peur ? Non mais des bricoles, c'est à cause de toi que mon mari est coincé dans un pommier depuis tout le temps, puis c'est moi qui fais le travail de tes temps. Non mais tu rêves ou quoi ? Et non, et elle a disparu. »
Et puis en fait, je me suis plongée dans des histoires qui parlent de mort, ce qui n'était pas vraiment mon registre, ni mon univers,
ouais.
Et, ou de peur. Et puis ben, je l'ai apprivoisé, et j'ai trouvé que c'était intéressant en fait, d'aborder la peur ou la mort ou la diablerie, et puis ce passage entre les deux mondes.
Ouais.
Finalement, j'y ai trouvé complètement mon intérêt, alors que... Autrement, je ne l'aurais pas raconté non plus.
J'ai adoré le coup du jeu « Balance ta bête ».
Ah ouais, voilà.
J'ai pensé à « Balance ton
corps ». Oui, c'est un peu l'idée, en fait. Il y a comme une espèce de clin d'œil. Général, il y a quelques rires, j'avoue, à ce moment-là.
Ouais.
Et je me régale à ce moment-là.
Oui, « Balance ta bête », c'était énorme.
Mais là, on m'a dit justement, tu vois, hier, « Balance ta bête », tu fais un peu peur quand même, quoi, tu vois. Quand il se cogne, il est en train de mourir, là.
Je pense que les enfants
mais voilà.
Pas hyper effrayés non plus.
Non.
Non, bravo.
Et Jack a dit, tu veux pas une route et une traîne de hêtre? Et la bête a dit, pourquoi pas? Alors la bête a tendu sa patte velue. Et puis, Jack, il a craqué les traînes de hêtre. Il en a craqué tellement, tellement. Il a essayé d'apprendre à la bête à craquer les traînes de hêtre. Mais c'était trop petit, les traînes de hêtre, avec ses pattes. Et Jack a dit, oui, bien sûr, mais tu sais que c'est plus agréable de manger quelqu'un qui est heureux que quelqu'un qui est malheureux. Moi, ce qui me rendrait heureux, c'est de jouer à un jeu. À un quoi? T'as dit quoi? À un jeu. C'est quoi ton jeu? Et Jack a dit, ça s'appelle... Balance ta bête. Ça consiste en quoi, qu'elle a dit la bête? Ben, c'est pas compliqué, regarde. Toi, tu m'attaches les pattes de devant, puis avec les pattes de derrière, tu me suspends au grand crochet et tu me balances.
Ah, moi, je veux essayer d'abord.
D'accord, a dit Jack. Alors, il a attaché les pattes de devant et puis les pattes de derrière et il a suspendu avec la corde au crochet et il a commencé à balancer la bête. Ça va, madame la bête, c'est pas trop fort. Balance plus fort.
Jack et le haricot magique, c'est vraiment le premier des contes que je raconte, quoi. Et il fait partie d'un autre spectacle, mon premier spectacle vraiment seul de Merlin l'Enchanteuse, où je raconte plutôt mon cheminement à travers les instruments à cordes, quoi. Voilà, c'est les cordes qui sont magiques et qui rencontrent cette petite fille que je suis au début. Ça se termine par Jack et le haricot magique avec cette harpe magique et je deviens troubadour et troubaïre.
Quand Mélinette a vu Jack et quand Jack a vu Mélinette, il s'est passé quelque chose. Il se passe de mots, enfin. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible. Pour les yeux,
en fait, t'as raconté l'histoire, puis on a oublié pourquoi il était venu là.
Ouais.
Il s'appelle Mélinette.
Mélinette.
Presque Merlinette.
C'est presque Merlinette, c'est presque mes lunettes aussi.
Oui,
donc,
aussi ouais.
C'est... On m'a dit une fois d'ailleurs, mais pourquoi tu parles de tes lunettes? Comment ça, je parle de... Du coup, maintenant, je parle des petites lunettes de la vieille. D'ailleurs, ouais. C'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça va enduire d'erreurs, comme on dit.
Il a regardé la harpe et il a dit « Harpe, joue !»
Là, ouais, on part dans l'Est. C'est Nita Showa qui organise cette rencontre. Donc là, ça va être aussi autour d'Halloween et autour d'un passage entre deux mondes.
Tu
rejoues
ce spectacle ?
Non, je joue pas le spectacle en entier. On fait une balade comptée, en fait, nocturne avec Ariel. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce dispositif Nita Showa nous a permis, avec Ariel, de présenter et de fabriquer, avec l'aide et l'accompagnement de Michel Hindenock, de Pepito Matteo et d'Olivier Hédin, notre spectacle qui parle des femmes migrantes. Il y a du monde au balcon. Ça, c'est le titre de notre spectacle.
Oui, ben merci beaucoup.
Ben, je t'en prie.
Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, dites-moi un peu, est-ce que ça s'est bien passé pour vous Halloween ? Est-ce que vous avez récolté des bonbons ?
Oui.
Non ? Qui a récolté des bonbons ? Et vous avez tout mangé depuis ? Non ? Il en reste un peu ? Ah, bon, tant mieux. Ok. Bon, ben, vous avez de la chance parce que pour moi, ça s'est pas très très bien passé. Ouais, bah, je vais vous raconter ça. Et ouais, j'étais invitée dans un château, le château du prince Prospero. Bon, au départ, tout allait bien, il y avait toute une ribambelle d'enfants. Et puis vers 10h le soir,
eh bien, je suis allée avec les enfants faire la tournée des bonbons. Ah, jusque-là, pas de problème. Et puis, un petit peu après, bah, j'étais fatiguée, hein, René. Donc, j'ai ramené les enfants au château. Et avant de partir, avant de rentrer chez moi, j'avais un peu soif. Bah, c'est vrai que j'en avais mangé aussi des bonbons, alors ça m'a donné soif. Et il se trouve que dans la cour du château, au milieu, là, il y avait un puits. Ah, bah, je me suis dit, avec un seau, vous voyez. Donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion de boire. Donc, j'ai descendu avec la chaîne, j'ai descendu le seau du puits jusqu'en bas. Et au moment où je remontais le seau, j'ai entendu un grincement. Vous savez. Ouais, je me suis d'abord dit, tiens, la chaîne, elle grince et tout. Mais non, en fait, ça venait pas du puits. Ça venait du chemin là-bas, là. Alors, j'ai regardé. Et puis, j'ai vu une charrette. Une charrette qui s'approchait. Et sur cette charrette, il y avait une silhouette noire. Avec une capuche noire. Et une main squelettique qui tenait une faucille. Ah, d'abord, j'ai rigolé. Ah bah, je me suis dit, bah, celui-là, il est drôlement bien déguisé. Hein, avec chapeau. Là, il a un beau déguisement de la mort. Et puis, ben, la charrette a continué son chemin. Tranquillement. Tout en grinçant. Et elle s'est arrêtée pile devant moi. Et là, j'ai compris. Ah bah oui. En fait, j'ai compris que c'était pas un déguisement. Et que c'était la mort en personne, qui me regardait. Et qui m'a dit « Conteuse, t'as de la chance. » Ce soir, c'est Halloween. Demain, c'est la Toussaint, la fête des morts. C'est la trêve demain. Moi, la mort, je ne travaille pas. Alors tu vois, conteuse, si t'arrives à me raconter trois histoires de morts que je ne connais pas, alors je te laisse la vie sauve. Mais sinon... Alors moi, je me suis assise au bord du puits, je tremblais de tous mes membres, comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis après, je me suis ressaisie, je me suis dit, mais des histoires, j'en connais, même des histoires de mort, j'en connais. Mais des histoires de mort que la mort ne connaît pas. Et la mort emporte tout le monde, a priori, c'était pas facile à trouver. Et puis finalement, j'ai eu une idée. Et j'ai dit à la mort, voilà ma première histoire. Onufrius était peintre et écrivain. Ce jour-là, il était dans son lit. Tout le monde le prenait pour quelqu'un de malade dans la chambre. Mais en fait, lui, il se sentait au mieux de sa forme. Sa fiancée, Jacinthe, était à côté de lui. Elle lui passait la main sur le front de temps en temps et puis elle penchait la tête pour vérifier qu'il respirait encore. À l'autre bout du lit, Gustave, son meilleur ami. Un homme tout habillé de noir est entré dans la chambre. Il s'est approché d'Onufrius, il lui a pris le pouls. Et là, il a dit c'est fini. Alors Jacinthe a fondu en larmes. Gustave en a fait de même. Et les quelques personnes qui étaient dans la chambre ont pleuré aussi. L'homme en noir a posé un petit miroir devant le visage d'Onufrius. Pour tout vous dire, Onufrius n'était pas mécontent qu'on le pleure et qu'on le regrette. Mais quand même, hein, quand on lui a mis un petit miroir devant la bouche, comme ça, il a fait tous ses efforts pour souffler et bien mettre de la buée sur le petit miroir pour bien prouver qu'il était vivant. Ouais. Mais il n'a pas réussi. L'homme en noir a jeté un drap sur lui. Il a entortillé Onufrius dedans. Et puis après, avec une aiguille et du fil, il a cousu le drap. Ah mais oui, mais c'est que des fois, l'aiguille rentrait dans la peau d'Onufrius. Ça faisait mal, c'était terriblement désagréable, cette aiguille qui lui rentrait dans la peau. Et puis, deux hommes sont arrivés, portant un cercueil. Ils ont pris Onufrius, ils ont voulu le mettre dans le cercueil, mais à ce moment-là, ils se sont rendus compte que le cercueil était trop petit. Alors, ils lui ont tapé sur les genoux pour que ça rentre, mais lui, il sentait bien la douleur. Il essayait de crier. Ça faisait mal. Et puis, ils ont posé le couvercle par-dessus. Et là, ils ont cloué. Tout le tour. Ça faisait un boucan. C'était insupportable. Alors, Onufrius a rassemblé toutes ses forces. Il a crié, il a tapé sur le couvercle pour bien montrer qu'il était vivant. Mais le bruit du marteau faisait qu'on n'entendait pas. Alors là, Onufrius a compris l'horreur de sa situation. On allait l'enterrer vivant. Il a bien senti le roulement du corbillard jusqu'à l'église. À l'église, il a entendu les prières, il a entendu les pleurs. Et puis après, encore le corbillard jusqu'au cimetière. Et là, arrivé au cimetière, il a senti qu'on descendait son cercueil dans la fosse. Alors une dernière fois, il a essayé de taper sur son couvercle. D'ailleurs, il a réussi, hein. Sauf que la terre qui tombait sur le cercueil étouffait ses cris. Sa première pensée, il allait mourir de faim et être rongé par les vers. Alors pour s'occuper un peu l'esprit, il a pensé à son dernier tableau. C'était un bon peintre. Son tableau allait être accroché au Louvre quand même. Quant à être écrivain, il était dramaturge. Il écrivait des pièces de théâtre. Et sa dernière pièce de théâtre, un drame, hein, une histoire tragique. Sa dernière pièce de théâtre allait être présentée le soir même à Paris. Bon, ça lui occupait l'esprit. Il était un petit peu content, il était un peu fier comme ça, tout seul dans son cercueil. Et puis, de fil en aiguille, à force de réfléchir, il a commencé à douter. Il a pensé à Jacinthe, à sa façon exagérée de le pleurer, à sa manière un petit peu hypocrite de le plaindre. Et puis, il faut savoir que Jacinthe, elle avait eu un amant avant, un certain Dario, un homme qui lui avait fait la cour. Un type hautain, déplaisant. Et d'ailleurs, un jour, dans l'intimité de la chambre, Jacinthe s'était trompée. Elle était avec Onufrius et elle a soupiré Dario. Onufrius, à force de faire des rapprochements, il a fini par se persuader que c'était elle, Jacinthe, et son amant Dario qui l'avait fait enterrer vivant. Pris de rage, il a déchiré son drap, il a tambouriné sur le couvercle du cercueil, il a crié, il allait sortir de là, il allait les tuer, elle et son amant. Oui, sauf que il voulait donner la mort, lui qui était enterré. Alors il s'est calmé, et puis pour s'occuper, il a inventé une autre histoire, une autre pièce de théâtre. Et puis là, tout à coup... Dans son cercueil, il a entendu du bruit au-dessus. Ah, on aurait dit deux hommes. Écoutez les pas. Ouais, il y en a deux. Ah. Oui, c'était deux fossoyeurs. Mais oui, c'était forcément, c'était sûr, c'était, on venait le déterrer, quelqu'un avait compris l'erreur. Oui, il a entendu la terre, on grattait la terre au-dessus de son cercueil avec des pelles. Enfin, il allait être libre. Et les deux hommes, les deux fossoyeurs, ont réellement sorti le cercueil de la fosse. Et là, ils ont fait sauter le couvercle. Et Onufrius a senti l'air frais sur lui. Il allait être libéré. Enfin, on avait compris l'erreur. Alors, les deux hommes ont porté le cercueil et ont déambulé comme ça dans les rues de Paris et sont entrés dans une maison qu'Onufrius connaissait très bien. C'était celle de son médecin. Mais oui, c'est forcément son médecin qui avait demandé à ce qu'on vérifie quand même s'il était mort ou pas. Rassuré, Onufrius s'est laissé porter comme ça et puis, eh bien, les deux hommes ont posé Onufrius sur la table d'examen à l'intérieur du cabinet du médecin. Et puis, ils sont partis. Et le médecin, lui, il est rentré avec sa petite mallette, vous savez. Alors, il a ouvert sa mallette sur la commode. Et là, il a sorti quelques instruments. Un bistouri. Un scalpel. Une scie métallique bien aiguisée. Et là, Onufrius a compris qu'on allait le disséquer vivant. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. L'âme d'Onufrius, qui pour l'instant a été restée solidaire du corps. Eh bien, l'âme s'en est allée. Oui, l'âme s'en est allée. Elle a traversé la maison. En fait, pour tout vous dire, l'âme ne voulait pas partager les tortures qu'allait subir le corps. Et l'âme ne voulait pas non plus assister au dépaissement de sa chère enveloppe. Parce que l'âme, elle aimait bien le corps qu'elle habitait. Alors elle s'en est allée. Elle a traversé la maison. Alors Onufrius, léger, a descendu les escaliers. Mais comme il était léger, eh bien il s'est tenu à la rampe de l'escalier pour ne pas s'envoler. Et puis, ça lui demandait beaucoup d'efforts, ses pieds, enfin, le souvenir de ses pieds. Ne touchait pas par terre. Alors, au bout d'un moment, il s'est lâché. Il montait, il descendait, il se laissait aller, comme ça. Pourquoi pas? Et puis, il s'est retrouvé dehors, dans les rues de Paris. Alors c'était pratique parce que de temps en temps il pouvait monter sur les toits, il s'accrochait à une cheminée et puis il écoutait les conversations à l'intérieur de la maison. Et comme ça, de ruelle en ruelle, eh bien, il s'est retrouvé au Louvre. Ah. Il est entré. Et au Louvre, il y a une grande salle qu'on appelle la grande salle des grands maîtres. De la Croix, de la Tour, Michel-Ange. Et dans un coin, il y avait un attroupement, c'est-à-dire quelques visiteurs du Louvre qui étaient là, tous rassemblés dans un coin. Alors Onufrius s'est approché et les gens regardaient un tableau et poussaient des grands « Oh, quel prodige! Ah mais ce tableau, quelle émotion! » Et ses couleurs. Entre nous, Onufrius était fier. Tout ce monde pour admirer son tableau. Ah oui, il était heureux. Et puis, il s'est approché un peu. Il a regardé la signature en bas à droite. Ah, le cochon! Ah, le saligo! Ah ben, il n'a pas perdu de temps, hein? Oui. Hey. Gustave, son meilleur ami qui avait mis sa signature à la place de la sienne. Ah. Alors là, dégoûté, il est sorti du Louvre, il est allé dans les rues prendre l'air. Et puis comme enfin, il avait quand même un petit peu besoin de se faire consoler. Et il est allé chez Jacinthe. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Alors il a continué comme ça dans les rues et puis... Il s'est retrouvé au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ah, eh oui, on jouait la première représentation de sa pièce ce soir-là. Alors quand il est entré, il dominait la salle de théâtre, vous savez, avec la scène. Et c'était la fin de son histoire. Et les gens, ils étaient tellement émus par cette fin triste qu'ils avaient tous sorti leurs mouchoirs. Et puis le rideau est tombé. Et là, un tonnerre d'applaudissements a retenti. Les gens ont frappé des mains, ont frappé des pieds, crié des hurrahs, des bravos. Oh, Onufrius se sentait, mais alors grand. Il était admiré. Et puis le rideau s'est levé et le présentateur a appelé l'auteur de la pièce. Gustave de Beauflair est venu saluer. Et puis lui-même, Gustave, a appelé la première actrice, c'est-à-dire celle qui a le premier rôle. Oui, il y en a qui ont compris, c'est Jacinthe qui est venue saluer. Pire encore, les deux se sont embrassés sur scène. Fous de rage, de jalousie, de haine, avec cette envie terrible de les tuer tous les deux, Onufrius est sorti. Il a volé un petit peu comme ça par-dessus les toits, puis à un moment donné, il avait froid, alors il est rentré par la petite fenêtre d'une petite chambre où il y avait un petit bonhomme, curieux. Un bonhomme blanc, avec des cernes, deux petites canines, tout habillé de noir. Il était à son bureau. Il avait un verre de rouge sur son bureau. Quand Onufrius est rentré dans la chambre, l'homme s'est levé et il est allé prendre deux brosses à chiens-dents et a commencé à pourchasser quelque chose dans la pièce. Mais Onufrius avait bien du mal à lui échapper, alors il faisait des circonvolutions comme ça pour échapper à cet homme qui... Oh, puis à bout d'un moment, il s'est retrouvé coincé dans un coin là et il a senti les piquants de la brosse qui lui rentraient comme ça dans le corps, enfin le souvenir de son corps, enfin je sais pas moi. Et puis... Oubliant qu'il n'avait plus de langue, Onufrius a crié. Il s'est réveillé quelque part entre la vie et la mort. Quelque part entre le rêve et la réalité. Mais une chose est sûre. Le corps d'Onufrius était criblé de petits trous. Alors, la mort, t'en dis quoi? Ah. J'en dis que tu t'en sors bien, conteuse, hein. C'est trop facile, hein, entre la vie et la mort, entre la vie et la mort. Merci. Alors la devinette, c'était « Je suis si fragile car rien me brise ». Eh bien, c'était le silence. Et pour la prochaine fois, oui, au mois de janvier, eh bien, voici une blague. Pourquoi les chasseurs ferment-ils un œil quand ils tirent ? Ah, on n'oublie pas, demain, dimanche, sur Radio Cause Commune, la voix des communs, l'émission « Les contes, c'est du sérieux » à 20h30. Cette émission sera consacrée aux enfants, au cercle conteur, et on pourra entendre des contes imaginés par les enfants. Voilà. Alors on se retrouve début janvier. Si tout va bien, le 6 janvier, et le lendemain, le 7, ce sera l'anniversaire de Histoire de dire, le podcast. Oui, ça fera un an. Alors, je vais essayer de vous concocter des petites surprises. On verra ça pour fêter la nouvelle année.
Je vous souhaite un très joyeux Noël, un bon réveillon et on se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures.
Le générique est de Lena Orsa.